Voilà, bonjour à tous et à toutes. On va commencer un nouveau livre, enfin, que vous avez déjà entendu, hein. C'est l'Évangile de Marc, et que donc je vais commencer aujourd'hui. L'Évangile de Marc, donc. Alors déjà, Marc, déjà, c'est bien de savoir qui c'est. Qui était ce Marc? Eh bien, d'après la tradition, Marc, il est ce Jean-Marc, le Jean-Marc qui avait collaboré avec Paul et Barnabas et qui les avait lâchés lors d'un voyage missionnaire. Et cela avait causé une dispute, une tension entre deux frères, Paul et Barnabas, puisque lorsque Barnabas a voulu reprendre Marc avec lui, eh bien Paul ne voulait pas, ce qui avait provoqué une tension entre tous les deux. Alors vous avez ces récits, je vous donne les références, acte 12, 25, acte 13, 13, acte 15, 37 à 40. Voilà, comment la brouille s'est installée. Et on aurait pu se dire tout est fini avec Marc. Mais non. On aurait pu se dire c'est un échec, mais non. Dieu n'en avait pas fini avec Marc, comme il n'a pas fini avec nous non plus. Puisque Marc, il a été le secrétaire de l'apôtre Pierre dans sa première épître. Pierre parle de Marc et il l'appelle mon fils. 1 Pierre 5, 13. Hein. Et Marc, Pierre, il avait aussi connu l'échec pour avoir renié son Seigneur. Alors, il était bien placé, puisque lui-même avait été restauré, il était bien placé pour restaurer Marc. Et on suppose qu'effectivement, il a été pour quelque chose dans la restauration de Marc. Alors, la parole de Dieu, elle est réaliste. Hein. Il y a des brouilles entre frères ou sœurs. C'est une réalité. Et la parole de Dieu en parle. Et merci Seigneur parce que elle est vraie et on se retrouve. Et aussi, la parole, elle est aussi notre espérance parce que par la grâce de Dieu, la réconciliation est possible. Comme ça a été le cas entre l'apôtre Paul et Marc, il y a eu une réconciliation. Paul a par la suite reconnu que Marc lui était utile dans le ministère. Et puis Paul cite positivement Marc dans plusieurs de ses épîtres. L'épître aux Colossiens, 4-10, sa lettre à Philémon, verset 24, sa deuxième lettre à Timothée, 4-11. Il fait des éloges de Marc, avec qui il s'était brouillé. Et enfin, tout n'était pas fini pour Marc parce que eh bien, Dieu l'avait réservé, l'avait préparé, lui avait confié une autre tâche, celle d'écrire l'évangile de Marc, qui nous est arrivé aujourd'hui. Un des quatre évangiles, pas moins. Et oui, Paul, aussi bien que Marc, avait changé. Et Dieu les avait changés. Et ça, eh bien, c'est le pouvoir de l'évangile. Qui change les cœurs. Aussi bien les cœurs des non-convertis, que les cœurs aussi des convertis. Qui nous fait progresser avec lui. C'est le pouvoir de l'évangile. L'évangile de Marc. Donc, alors l'évangile de Marc, il est différent des autres évangiles. Il annonce le même récit, hein, bien sûr, l'histoire de Jésus, hein, de sa mort de sa vie à sa mort, à sa résurrection. Mais alors que l'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus pour décrire sa lignée humaine, l'évangile de Marc ne s'attarde pas sur les origines de Jésus, ses origines, sur sa lignée. L'évangile de Marc ne s'attarde pas sur sa naissance. Mais l'évangile de Marc, il rentre tout de suite dans l'action. Retenez son mot « action ». C'est vraiment ce qui caractérise l'évangile de Marc. Il rentre tout de suite, il commence avec le ministère public de Jésus. Bien sûr, avec la présentation de Jean-Baptiste, je vais y revenir. L'évangile de Marc, c'est vraiment, il est dans l'action. Et d'ailleurs, il y a un mot qui revient plus de 40 fois dans l'évangile de Marc, c'est le mot « aussitôt ». Aussitôt. Action, donc. On compte beaucoup de miracles dans l'évangile de Marc, plus d'une vingtaine. Et il y a seulement 5 paraboles dans l'évangile de Marc. Un évangile donc qui est dans l'action et qui appelle aussi à l'action. Parce que l'évangile, c'est plus qu'une simple information. C'est plus que transmettre une information, l'évangile. L'évangile change la vie. L'évangile appelle une réaction, une réponse des auditeurs. Et c'est un appel urgent à la repentance, cette réponse. Et à la foi, bien sûr. La prédication orale de la parole de Dieu doit entraîner la confession des péchés et la confession orale du Fils de Dieu, la confession orale de la foi en Jésus. Et on a comparé l'évangile à une alarme incendie. Lorsqu'elle sonne, il y a deux possibilités. Peut-être vous avez subi des exercices dans vos entreprises. Deux possibilités lorsqu'elle se met à sonner. Soit c'est on part pour sauver sa vie, soit on se dit bon, c'est encore un exercice, on la prend pas au sérieux. Et le risque, eh bien, il est de brûler. L'évangile, c'est ça, c'est une alarme. C'est une alarme pour tous les hommes sur cette terre à se tourner vers Dieu. L'évangile de Marc, elle est la plus courte des quatre évangiles. On la recommande souvent aux nouveaux convertis. Il est simple à lire. Il n'a pas des termes compliqués qui s'adressent plus aux judaïsants. Enfin, il s'adresse à tous, l'évangile de Marc. Il peut être facile à comprendre, même pour un non-juif. Et l'évangile de Marc, hein, on va le voir, c'est l'évangile du serviteur, pour les serviteurs, qui s'intéresse plus aux actions, aux services, qu'aux paroles. Marc a lui-même été le serviteur de Paul et Pierre. Marc a été un serviteur, alors il était bien placé aussi pour en parler. Et le but de Marc, c'est de présenter Jésus comme le serviteur par excellence, fidèle, prompt à obéir, action, à obéir à son Père, bien sûr, jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Il y a un verset qui résume bien la vie de Jésus, Marc 10, 40, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'évangile du serviteur. L'évangile de Marc aussi souligne plus que les autres, peut-être, l'humanité de Jésus. Ses émotions, ses limites terrestres et humaines, ses souffrances, bien sûr. Tout en le présentant directement comme étant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, serviteur volontaire, à la fois humble et puissant et humain. Ses œuvres authentifie sa divinité, hein, ses miracles. Et il est déclaré fils de Dieu dès le verset 1 du chapitre 1, dès le premier verset. Et aussi vers la fin de l'évangile, chapitre 15, verset 39, c'est le centurion qui confesse que Jésus est le fils de Dieu. Alors, je vous invite à prendre justement le premier chapitre de l'évangile de Marc, chapitre 1, nous verrons les 15 premiers versets. Marc chapitre 1, verset 1 à 15. Et avant cela, je vais prier. Seigneur, merci encore pour nous avoir laissé ta parole, Seigneur. Et je prie qu'elle agisse dans nos cœurs, que Seigneur, vraiment, elle fasse écho chez nous, Seigneur. Que tu trouves en nous la réponse que tu attends, Seigneur, à ta parole, à ton évangile. Merci, Seigneur, de nous parler et, Seigneur, de nous aider à recevoir ta parole pour qu'elle la laisser changer nos vies et nous mettre à l'action, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ces moments et je te remets tout ce que je dirai en me reposant sur toi, au nom de Jésus. Amen. Je lirai donc Marc, chapitre 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dès le début, donc, nous avons les présentations de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Alors, affirmer une telle chose dès le début de l'évangile, eh bien, il faut pouvoir l'étayer, l'affirmer. Et une telle affirmation mérite d'être appuyée. Et effectivement, eh bien, dès le chapitre 1, Marc présente trois raisons principales pour laquelle, qui confirment que Jésus est déjà le Fils de Dieu. C'est ce que l'on va voir en trois parties. Premièrement, Jésus est le Fils de Dieu parce que l'Écriture avait annoncé que sa venue serait préparée par Jean-Baptiste. C'est attesté par l'Écriture. Première raison. Deuxième raison, Jésus est le Fils de Dieu parce que le Père et l'Esprit lui ont rendu témoignage. Et troisièmement, Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il a été tenté et qu'il a résisté en tout à la tentation. Il n'a jamais chuté. Donc, ce que je vous propose de voir. Premièrement, Jésus est le Fils de Dieu parce que l'Écriture avait annoncé que sa venue, eh bien, serait préparée par Jean-Baptiste. Alors, peut-être vous suivez l'actualité. Il y a deux personnalités, hein, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est le roi Charles III d'Angleterre et le pape. Et leur venue ont fait l'objet de grandes préparations, d'effets d'annonce, beaucoup de sécurité renforcée. Très différent de la venue de Jésus. La préparation, l'annonce de la venue de Jésus. Dieu avait préparé la venue de son fils, Jésus, par une annonce, déjà une annonce, publiée près de 700 ans avant par le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Ésaïe 40, verset 3, je lis, 40, verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et aussi dans Malachie, nous pouvons lire Malachie 3, 1, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » C'est l'Éternel qui parle. Alors, l'Écriture se cite elle-même. Le meilleur interprète de la Bible, c'est la Bible. L'Écriture se cite elle-même et elle s'atteste, elle se confirme elle-même par l'accomplissement des prophéties qu'elle annonce, dont celle, dont la prophétie que l'Éternel lui-même viendrait visiter son peuple, attestant par là que Jésus est Dieu, attestant par là la divinité de Jésus. Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même. Jean-Baptiste, donc le messager annoncé dans Malachie, Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, il apparaît au début du Nouveau Testament. Et Jean-Baptiste, il fait la jonction entre les deux testaments. Il y a eu 400 ans, à peu près 400 ans de silence entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Près de 400 ans de silence. Jean-Baptiste, il est le dernier prophète. Il est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, annoncé par l'Ancienne Alliance, celui qui préparait la venue du Messie. Alors ceux qui lisaient l'Écriture, lorsque Jean-Baptiste s'est présenté, eh bien, la venue de Jean-Baptiste a dû susciter un immense intérêt. Preuve en est, tous ceux qui venaient vers lui, toute la Judée et tout Judas et Jérusalem. Jean-Baptiste, son nom veut dire « l'Éternel fait grâce ». Et son nom, eh bien, il est déjà une préparation à la venue du Messie qui est venu pour faire grâce à son peuple, pour nous faire grâce. Le caractère même de Jean-Baptiste aussi nous a préparé à la venue du Messie. Son caractère même de Jean-Baptiste, comment était-il ? Eh bien, il était humble. Parce que Dieu fait grâce lorsque son peuple s'humilie et se repent de ses péchés. Et Jean lui-même était un modèle d'humilité. lorsqu'il a dit qu'il n'était pas digne de délier la courroie des sandales du Messie, eh bien, il s'abaissait lui-même au rang d'un esclave. C'était un geste très humiliant. Et puis aussi, Jean-Baptiste, aujourd'hui, on l'aurait qualifié d'original, quelqu'un qui vit de sauterelles. On pouvait le confondre avec le prophète Élie par son apparence, parce que il était habillé comme lui, c'est-à-dire vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins, de roi 1:8 pour Élie. Jean-Baptiste, il avait juste le nécessaire pour vivre, il ne s'embarrassait pas des affaires de cette vie. Son seul but était de faire connaître Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. Il s'oubliait lui-même, il n'y avait pas de place pour son ego. Il préparait la venue du Messie. Et lorsque Jésus viendra, eh bien, il lui laissera la place. Lorsque Jésus apparaîtra pour commencer son ministère. Donc Jean-Baptiste, il est un exemple de simplicité. Il est un exemple de simplicité et d'humilité. Il est encore un exemple de serviteur. Et il est un exemple pour nous, bien sûr, pour servir le Seigneur. Jean a donc préparé la venue du Messie, la venue du Seigneur, pas seulement par sa vie, par son exemple d'humilité, mais aussi par sa prédication, appelant Israël à la repentance et à la manifester publiquement par la confession et le baptême. Manifestation publique. C'était une préparation. C'était de cette manière-là que Dieu voulait que la venue de son Fils soit préparée. Une préparation morale. Une préparation à valeur morale. Et oui, parce que c'est quand même Dieu qui vient en Jésus-Christ. C'est lui qui vient, comme l'Ancien Testament l'avait annoncé. Dieu vient en Jésus. Il s'approche de son peuple. Alors la meilleure façon de l'accueillir, quelle est-elle? Ben, c'est de se préparer. C'est de renoncer au péché qui l'a offensé et qui nous a tous atteints. Et c'est pas juste un sentiment. Ça doit se traduire en acte aussi. Jean a dit, en Matthieu 3:8, Jean-Baptiste a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est pas juste des paroles, mais aussi produire du fruit qui montre que nous nous sommes repentis. La repentance, c'est donc un changement de vie. C'est un demi-tour. Quand on connaît pas le Seigneur, on va tout droit vers les problèmes, vers la mort, et puis on attend l'évangile, et puis on fait demi-tour. Et on se tourne et on marche avec le Seigneur. La repentance, c'est d'un demi-tour. La repentance, c'est plus qu'un regret. Oh, je regrette, excuse-moi. C'est plus que ça. C'est vouloir ne pas recommencer. Alors, Jean baptisait. Et le baptême de Jean, il ne produisait pas le pardon permanent, je précise. Il ne produisait pas le pardon permanent des péchés. Il n'était que la confession à haute voix du péché qui rendait le pardon nécessaire à cause du jugement qui est lié au péché. Quand on déclare qu'on est pécheur, on déclare qu'on est passible du jugement. Donc ça ne devait pas s'arrêter là. On reconnaît déjà, c'est le début, la confession du péché. On reconnaît ce qu'on est. Mais ça ne produisait pas le pardon permanent des péchés. Et Jean-Baptiste, il a eu du succès. Il avait un message qui n'était pas très populaire. Et pourtant, il a eu du succès. Il avait eu du succès en Judée et à Jérusalem. Mais malgré ce succès apparent, l'appel au baptême de Jean-Baptiste n'a pas produit un véritable changement de cœur chez les Juifs de l'époque. La suite de l'histoire en témoigne, vous la connaissez. Le peuple d'Israël ira jusqu'à crucifier son Messie. Donc il n'y a pas eu un véritable changement de cœur suite à ce baptême de Jean-Baptiste. Il fallait plus que ça. Plus que le baptême d'eau de Jean-Baptiste, eh bien, il fallait un autre baptême. Il faudra le baptême de l'Esprit. L'Esprit que enverra Jésus. Le seul habilité à enlever le péché. Pour opérer une véritable transformation de cœur chez toute personne qui se repent et qui place sa confiance en Jésus et qui le confesse publiquement. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, nous dit, il est encore question de confession, Et là, confession du Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Confession des péchés, là il s'agit de confession du Seigneur Jésus. Le baptême de l'Esprit, quand est-ce qu'on est baptisé d'Esprit Saint? Eh bien on est baptisé d'Esprit Saint quand on vient à Jésus. Et il n'y a pas de seconde expérience, comme pratiqué dans certains milieux. Il n'y a pas de seconde expérience. Le baptême de l'Esprit, on l'a dès l'instant qu'on se repent de ses péchés et qu'on croit en Jésus. Selon la promesse qui était déjà écrite dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel chapitre 36, verset 26, je vous le lis. Promesse de Dieu, donc, qui annonçait effectivement cette effusion de l'Esprit, que Jésus enverrait. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cette promesse, eh bien, elle s'accomplissait en Jésus et par Jésus qui enverrait l'Esprit. Jean-Baptiste, donc, il est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la préparation du Messie. Comme quoi Jésus est bien le Fils de Dieu. Deuxième point, Jésus, il est le Fils de Dieu parce que le Père et l'Esprit l'ont attesté lors de son baptême. Le Père et l'Esprit l'ont attesté lors de son baptême. Jésus, il a passé 30 années silencieuses. On ne connaissait pas avant ce qu'il a fait à Nazareth. Bien sûr, les autres évangiles parlent de sa naissance. Mais 30 années silencieuses, il a passé 30 années de silence. On ne sait pas grand-chose de ce qu'il a fait avant. Jusqu'à ce point où il va démarrer son ministère public. Et comment Jésus va-t-il démarrer son ministère public? Eh bien, en se rendant aux yeux de tous auprès de Jean-Baptiste qui pratique un baptême de repentance, en se faisant baptiser par lui. Celui qui baptisera d'Esprit Saint vient se faire baptiser du baptême de repentance. Il y a de quoi se poser des questions. Et Jean-Baptiste s'en est posé. Jésus n'a pas besoin de se repentir. De quoi a-t-il besoin de se repentir? Il est le Fils de Dieu. Et Jean lui-même n'a pas compris pourquoi. Et Jésus lui a dit, dans l'évangile parallèle, en Matthieu 3,15, il lui a dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Le baptême de Jésus, c'était juste, c'était ce que voulait Dieu. Pourquoi était-ce juste? Eh bien, on se rappelle que Marc, c'est l'évangile du parfait serviteur. Qui dit serviteur dit obéissance. Et Jésus, en se faisant baptiser, il a obéi à son Père. Du baptême de repentance, dont il n'avait pas besoin de se repentir. C'est déjà la manifestation qu'il est le parfait serviteur par son obéissance au Père. Il s'est soumis au Père, à son Père, en se faisant baptiser alors qu'il n'en avait pas besoin. Est-ce que c'est facile pour nous, pour vous, d'obéir lorsque vous savez qu'on vous demande quelque chose et vous « Mais ça sert à rien, pourquoi tu me demandes ça ?» Et je me rappelle lorsque j'avais eu mon permis, mon père était monté à côté de moi dans la voiture, et puis, j'étais seul sur une route et je devais tourner à droite et je n'ai pas vu, je regardais mon rétro, pas de voiture derrière, donc j'ai pas mis mon clignotant, quoi. Bon, mettre mon clignotant, pas de voiture. Et mon père n'a pas manqué de me dire pourquoi tu as pas mis ton clignotant. Et je me rappelle encore, j'ai compris la leçon, effectivement. Parce que, en prenant il valait mieux prendre la bonne habitude de mettre le clignotant, même s'il n'y a pas de voiture derrière, que d'oublier de le mettre lorsqu'il y a une voiture et de risquer un accident. Et Dieu nous demande, effectivement, cette obéissance, même si on ne comprend pas tout, mais une obéissance fondée sur sa parole. Donc, Jésus, par son baptême, a montré qu'il obéissait à son Père, le parfait serviteur. Une autre raison au baptême de Jésus, ça s'est passé au moment du baptême de Jésus. Eh bien, c'est au moment où Jésus est sorti de l'eau que Dieu va témoigner que Jésus est bien son Fils bien-aimé. Il va témoigner de façon visible, de façon audible. Il va témoigner de façon visible lorsque l'Esprit va se descend publiquement sur lui sous la forme d'une colombe. Publiquement. Tout le monde a dû voir la colombe. Mais au fait, là encore, Jésus, il n'avait pas déjà l'Esprit en lui? Bien sûr que si. Il avait déjà, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il avait l'Esprit, bien sûr. En tant qu'être humain, il était rempli du Saint-Esprit, étant lui-même Dieu. Alors pourquoi ce signe visible? Pourquoi montrer de façon visible que l'Esprit descend sur lui? Eh bien, n'oublions pas que le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Donc venez à ce baptême des gens, on peut dire, en priorité des gens de mauvaise vie, qui reconnaissaient leur vie. Et même si nous avons tous besoin de nous repentir. Hein. Alors il ne fallait pas confondre Jésus avec les autres qui venaient se faire baptiser du baptême de repentance. Et le Père lui-même a témoigné que Jésus se faisait baptiser de ce baptême-là alors qu'il n'était pas coupable. C'était pour le différencier des coupables repentants qui venaient se faire baptiser. Et à qui Jésus s'était mélangé? Jésus s'était mélangé à cette foule qui venait se faire baptiser. Lui, le seul non coupable, il s'est mélangé. Il s'était mis au nombre des malfaiteurs. Et son baptême, le baptême de Jésus, illustrait déjà sa mort et sa résurrection qui allait survenir 3 ans plus tard. Par son baptême, il illustrait déjà ce qui allait lui arriver. Effectivement, l'Ancien Testament l'avait prophétisé en Ésaïe chapitre 53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12 dit qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors il fallait un témoignage visible là, que Jésus n'était pas comme les autres. Il s'est fait baptiser, il s'est mis au nombre, au rang des malfaiteurs. Mais là, son baptême rendait nécessaire le témoignage du Père, de l'Esprit et du Père. Témoignage visible, donc par l'Esprit qui descend sur lui sous la forme d'une colombe, et témoignage audible par la voix même de Dieu le Père, qui va témoigner que Jésus est son Fils bien-aimé. Les présentations sont faites. Jésus est le Fils de Dieu, dès le début de l'évangile de Marc. Et tout le restant de l'évangile va effectivement l'attester, sa vie, ses miracles, son enseignement, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Jésus est bien le Fils de Dieu. Au moment du baptême de Jésus, eh bien, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils se sont manifestés ensemble. On a une manifestation de la Trinité au moment de ce baptême, pour confirmer que Jésus est bien le Fils de Dieu. En résumé, son baptême illustre 3 choses. Qu'il est le parfait serviteur, obéissant, soumis à Dieu. Qu'il est le Messie, oint de l'Esprit, choisi par Dieu. Et la déclaration qu'il est bien le Fils de Dieu. Voilà pourquoi donc le baptême de Jésus. Mais il manquait encore quelque chose, dans le plan divin en tout cas. Jésus avait encore à faire ses preuves après le baptême. Sans attendre, aussitôt après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit le poussa dans le désert pour être tenté par Satan. Aussitôt, nous dit le texte, tout de suite après le baptême. Alors, il y a là aussi une portée pour nous. Lorsqu'on s'est fait baptiser, je ne sais pas si vous avez des rappels, et lorsque quelqu'un va se faire baptiser, il est de la responsabilité de l'Église de prier pour les candidats au baptême. Si Jésus a été l'objet de la tentation après son baptême, à plus forte raison, quelqu'un qui vient se faire baptiser, il est la cible de l'ennemi qui œuvre pour le décourager, pour le détourner. Et malheureusement, on voit parfois des personnes nouvellement baptisées qui se sont détournées. C'est notre responsabilité à tous de prier pour les nouveaux baptisés, de prier pour eux avant leur baptême, pendant leur baptême, de les accompagner, de se réjouir avec eux, et après le baptême, et après le baptême. Alors, Jésus, eh bien, il va être exposé à la tentation. Mon 3e point, Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il a résisté en tout point à la tentation, il a eu la victoire totale sur la tentation. On sait que le diable le tentera encore à nouveau juste avant la croix. Mais là encore, Là encore, il résistera pour aller à la croix pour nous. La tentation de Jésus a beaucoup à nous apprendre quand nous sommes tentés, nous-mêmes. Nous pouvons avoir la victoire sur la tentation, quelle qu'elle soit, parce que Jésus l'a eue pour nous. Il a été tenté, il a su y résister. Alors, un autre passage nous parle de la tentation qui va nous aider à identifier la nature de nos tentations. Lorsque nous sommes tentés, identifions qu'est-ce que c'est que cette tentation. En quoi le diable veut-il faire tomber ou faire tomber ? Un passage va nous aider à identifier la nature de nos tentations dans le but de mieux y résister. C'est dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 13 et 14, que je vous lis. Jacques, chapitre 1, versets 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La tentation, c'est une excitation de quelque chose que nous avons déjà en nous, le péché. Le diable, quand il tente, il veut amorcer, il veut exciter le péché en nous. Et il faut pas confondre possession démoniaque et péché. Nous avons tous le péché en nous. Ce n'est pas pareil, quelqu'un qui est possédé du diable. Nous avons tous le péché en nous. Et lorsque nous sommes tentés, le diable essaie d'exciter le péché qui est déjà en nous. Et là, il y a un mot qui résume tout, c'est la convoitise. La convoitise. C'est ça qu'il va essayer de réveiller. C'est clair, Dieu ne tente lui-même personne parce qu'il ne peut pas être tenté. Mais il autorise Satan à tenter les gens et même il l'a autorisé à tenter son fils, Jésus. Et c'est ce qui va nous aider, c'est que d'identifier la manière dont Satan s'y prend. Satan utilise deux types de tentations. L'une qui est grossière, facile à identifier, qui consiste à amorcer le péché qui est déjà dans nos cœurs et qui est toujours lié à notre convoitise. Ça peut être un péché d'ordre sexuel, un péché d'ordre matériel, de convoiter un bien, de l'argent, ou autre. Donc facile à identifier ce péché-là. Son but, le but de Satan, c'est de nous faire tomber dans son piège, mais ça ne s'arrête pas là, pour faire des gens ses esclaves. Imaginez, une bonne illustration, un pêcheur de poissons. Il a un hameçon, avec au bout un petit ver de terre, et l'hameçon, il est bien caché dans le ver de terre. Et le poisson passe par là. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il est attiré par quoi ? Par le ver de terre. Sauf qu'il ne voit pas l'hameçon qui est derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Le poisson mord à l'hameçon. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça ne s'arrête pas là. Le pêcheur l'a attrapé. Satan ne se limite pas à faire tomber les gens. Il veut en faire ses esclaves. Il veut les attraper. Il veut tendre des pièges pour en faire ses esclaves. Et ces tentations-là, elles visent tout le monde. Sauf que nous, les chrétiens, on a bien sûr un avantage. Et je vais y revenir. Mais quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus, eh bien, il va lui manquer l'essentiel, il va lui manquer le Seigneur. Il n'aura pas la force de résister à la tentation. Et certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont tentés. Ça ne les gêne pas de regarder un film avec du sexe, avec ou le mensonge, et parfois même ces choses sont mises en valeur. Un non-chrétien va pas se rendre compte, il va pas se rendre compte que, eh bien, en cédant à cela, il est esclave de Satan, parce que sa propre convoitise n'arrive pas à lutter tout seul. Il n'arrive pas à y décider. La seule solution, eh bien, effectivement, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et d'avoir la foi en son sacrifice et en sa résurrection. Donc on peut être tenté par ce type de tentation grossière, ce premier type de tentation. Nous aussi, l'Église, on peut être tenté, mais nous avons tout ce qu'il faut pour y résister. Nous avons le Seigneur. Mais il existe un autre type de tentation beaucoup plus subtil, celui-là, et qui vise plus particulièrement les chrétiens. C'est celle que le diable a utilisée contre Jésus. Jésus, il avait bien été tenté. Ce qui prouve aussi, si on vous demande, est-ce que la tentation, c'est un péché? Non, c'est pas un péché, la tentation. Jésus a bien été tenté. Et il y a résisté. C'est le fait de céder à la tentation qui devient un péché. Mais au fait, Jésus, il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de convoitise dans son cœur. Donc, il ne pouvait pas être tenté à cause de sa propre convoitise. Il n'en avait pas, il était sans péché. Alors, qu'est-ce que cherchait le diable en le tentant? Eh bien, il lui cherchait à le faire abandonner son ministère, son service. Marc, il ne s'étend pas sur la tentation de Jésus. Vous avez remarqué, il y a juste une phrase. Contrairement à Matthieu qui nous décrit précisément comment Jésus a été tenté. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons comment le diable le tente par l'écriture et Jésus répond par l'écriture. Il est aussi écrit. Ici, pour Marc, Marc ne s'attarde pas sur la manière dont Jésus résiste à la tentation. Parce que l'important pour Marc, c'est de montrer Jésus rentrer tout de suite dans l'action, dans son ministère, en prêchant l'évangile, après avoir été tenté. Action pour Marc. Et pour nous, eh bien, quel enseignement pour nous? Notre vie chrétienne doit aussi être action. Service pour le Seigneur, en le servant. C'est pas juste réservé aux responsables, mais à chacun d'entre nous. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, mais des gens qui sont prêts à le servir, qui ont un cœur de serviteur. Et c'est lui qui les qualifiera. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, c'est lui qui nous qualifie. Par son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vaut mieux que tous les diplômes, même si c'est bon de faire des études. Alors, si tu as envie de servir, mais tu n'oses pas, n'hésite pas à en parler aux responsables. N'aie pas peur de prendre des initiatives si c'est pour servir, si ton but est de servir dans l'Église. Si tu as un cœur de serviteur. Seulement attention, c'est là qu'il faut être vigilant, parce que ça ne plaît pas au diable. Le diable, il sait que nous pouvons résister aux tentations grossières, sexe, argent, nous pouvons résister à ces tentations. C'est les tentations qu'il met devant nous pour nous faire tomber. Nous pouvons y résister grâce à Jésus. Satan sait qu'il ne peut plus faire de nous ses esclaves. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus esclaves du diable. Il nous a libérés. Alors Satan s'y prend autrement, d'une façon beaucoup plus subtile, pour arrêter quelqu'un qui veut le servir. Comme par exemple, quand on compte orgueilleusement sur nos propres capacités. J'ai fait des études, je sais beaucoup de choses. Attention, c'est bien, effectivement, il faut connaître la Bible hein, pour pouvoir effectivement en parler justement, mais il ne faut pas attendre d'être théologien pour partager sa foi. Tentation donc de compter orgueilleusement sur ses propres capacités plus haut que sur le Seigneur. Ou alors, soif de pouvoir. Satan avait fait miroiter à Jésus les royaumes du monde. Et Jésus aura bien le royaume en passant par la croix, ce que le diable voulait lui faire éviter. Solution facile, c'est souvent la solution de facilité que Satan offre aux serviteurs. Ou alors parfois de façon détournée, de toute façon ça peut être de la fraude, ça peut être passer outre certaines lois. Ça peut être donc la soif de pouvoir que Satan utilise, ça peut être bien sûr le découragement dans son service. Ou alors nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur et qu'il vaut mieux laisser tomber. Ou alors encore, laisser l'évangélisation à des professionnels. Faire croire que partager sa foi, c'est uniquement réservé aux évangélistes ou aux pasteurs. Alors que nous pouvons tous partager notre foi avec d'autres. Tentation grossière, tentation subtile. Dans les deux cas, eh bien, nous avons les moyens d'y résister en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons en nous celui qui a résisté au diable, qui a vaincu le diable par la puissance du Saint-Esprit, prouvant par là qu'il est bien le Fils de Dieu. Alors nous avons tout ce qu'il faut pour discerner les ruses de Satan et pour ne pas y tomber lorsqu'elles sont là et pour y résister. Et un passage qui nous aide beaucoup lorsque nous sommes tentés, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16, que je lirai. Hébreux 4, 15 et 16. Car nous n'avons pas, Hébreux 4, 15 et 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour résister au mal, nous avons le mode d'emploi dans ce passage. Eh bien, approchons-nous du trône de grâce, sur lequel est assis celui qui a résisté en tout au diable, qui n'a pas succombé à la tentation. Approchons-nous du trône de grâce pour recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour résister au mal. C'est bien ce que dit le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Quand nous sommes tentés, nous avons besoin d'une force surnaturelle. Nous avons besoin de cette grâce chaque jour. Il y a un livre qui vient de sortir dont j'aime beaucoup le titre, qui s'appelle « À chaque jour suffit sa grâce ». À chaque jour. Et à chaque jour, nous pouvons demander cette grâce en venant au trône de grâce. L'accès nous est ouvert grâce à Jésus qui s'est sacrifié pour nous et qui est ressuscité et qui s'est assis pour l'éternité, sur son trône. Il est notre grand prêtre. Nous pouvons aller à lui à tout moment. Et c'est seulement comme cela que nous pouvons résister à la tentation. Et parfois, il nous arrive de tomber. Eh bien là encore, approchons-nous du trône de grâce pour trouver miséricorde et grâce. Demandons pardon au Seigneur lorsque nous tombons. Les présentations sont faites. Jésus est bien le Fils de Dieu. Il commence action dans son ministère en prêchant. En prêchant l'évangile. Il y a une différence entre la prédication de Jean-Baptiste et la prédication de Jésus. La prédication de Jésus n'est pas seulement « repentez-vous » selon ce que prêchait Jean-Baptiste, mais la prédication de Jésus, c'est « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, eh bien, l'évangile. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a amené son royaume. Il nous l'a rendu accessible par son Fils Jésus. Il nous l'a rendu proche par la présence même du Seigneur Jésus en son temps. Le roi du royaume, le roi des rois, il est là, Jésus. Mais son action, son accès n'est possible que par la repentance. Ça vaut toujours la repentance. Et la foi en Jésus qui s'est sacrifié pour nous et qui est ressuscité. Et qui est le roi de ce royaume. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous comprends, tu nous connais. Tu sais dans quel monde nous vivons, tu sais à quelle tentation nous sommes exposés, Seigneur. Mais merci parce que, Seigneur, tu as parfaitement résisté, Seigneur. Et c'est qu'avec toi que nous pouvons résister, parce que tu nous demandes, Seigneur, c'est vrai, de résister. Alors, pardonne-nous lorsque nous tombons, Seigneur, lorsque nous n'avons pas vu, Seigneur, l'issue. Mais Seigneur, nous voulons croire que, oui, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour résister au mal. Seigneur, nous te demandons de nous garder, de nous aider vraiment à briller de ta lumière, à être le sel de la terre. Dans ce monde, Seigneur, nous te demandons, oui, cette grâce, Seigneur, que d'être tes enfants de lumière, Seigneur, dans ce monde, pour faire la différence. Que des gens s'approchent de toi, Seigneur, aient envie de se détourner du mal, et que nous soyons au rendez-vous divin que tu nous fixes, Seigneur, pour témoigner de toi. Nous soyons serviteurs de toi, Seigneur, tes serviteurs, toi qui es le parfait serviteur. Que nous ayons pas peur, Seigneur, de nous lever pour toi, pour te servir avec toujours un esprit de serviteur, un esprit de service. Seigneur, que nous sachions aussi reconnaître les ruses du diable, comment il s'y prend. Ça peut être parfois très grossier, ça peut être parfois très subtil. Seigneur, que tu nous donnes toujours le discernement pour ne pas tomber dans ces ruses, dans ces tentations. Merci de ta venue, Père, parce que tu es venu en chair et en os, toi-même, Seigneur, en personne de ton Fils. Tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver, pour nous accompagner, pour être avec nous chaque jour, pour nous donner la victoire. Alors, Seigneur, que nous saisissions cette victoire que tu nous as acquise, jour après jour. Au nom de Jésus. Amen.